Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre, nous sommes ensemble jusqu'à 19h. Les Nations Unies lancent un avertissement. Le monde fait face à sa pire crise humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec plus de 20 millions de gens souffrant de la faim et de la famine dans 4 pays. Sans des efforts collectifs et coordonnés à l'échelle mondiale, on peut prédire que beaucoup de gens vont mourir de faim. Ces propos, ce sont ceux de Stephen O'Brien, le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires des Nations Unies. Il s'exprimait vendredi soir devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour alerter le monde sur ce que vivent une partie des habitants du Yémen, de Somalie, du Nigeria et du Soudan du Sud, et pour demander une aide d'urgence, plus de 4 milliards de dollars d'ici le mois de juillet, afin, dit-il, d'éviter une catastrophe. La famine est donc de retour, sa dernière apparition datait de 2011, déjà en Somalie. Elle avait fait 260 000 victimes. Cette fois, ce n'est pas dans un seul pays, mais dans 4 qu'elle réapparaît quasi simultanément. Et ce qui frappe quand on regarde un plan large de l'Afrique, c'est que ces pays n'ont pas de frontières communes, ce qui invalide a priori le fait qu'il s'agisse d'une seule et même crise, même si les causes peuvent être identiques. Alors pourquoi y a-t-il encore des famines ? Et là, c'est la question que nous posons ce soir à 3 invités. Clara Jamar, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable du plaidoyer sur la sécurité alimentaire pour Oxfam France. Oxfam qui est une ONG internationale qui agit contre les injustices et est contre la pauvreté. Pour discuter avec vous, Georges Courade, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes géographe, directeur de recherche honoraire à l'IRD. L'IRD, c'est...
L'Institut de recherche pour le développement.
Voilà, j'avais oublié de le noter et j'ai eu un petit trou. L'Afrique des idées reçues, c'est un de vos ouvrages publiés chez Belin, dont la version réactualisée date de l'an dernier. Vous êtes également l'auteur des Afriques au défi du 21e siècle chez le même éditeur. C'était en 2014. Et puis notre troisième invité se trouve au téléphone à Rome. Il s'agit de Dominique Burgeon. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous dirigez la division Urgence et Réhabilitation de la FAO. La FAO, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation. Les Nations Unies qui donc, à travers la voix de son secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires, évoquaient la pire crise humanitaire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dominique Burgeon, c'est la pire crise. Pour quelle raison ? En raison du nombre de personnes qui pourraient être affectées par cette crise ? Ou bien est-ce que c'est également parce que elle se situe non pas dans un seul pays, mais dans 4 pays désormais.
Oui, effectivement, nous sommes extrêmement préoccupés par la situation alimentaire dans, comme vous l'avez dit, dans 4 pays où le risque de famine est bien réel. En fait, la famine a déjà été déclarée au Soudan du Sud, hein, puisque il y a de cela 15 jours, nous avons déclaré une famine au Soudan du Sud qui affecte plus de 100 000 personnes dans certaines parties du pays. Mais nous sommes aussi préoccupés par la situation au Yémen, au Nigeria, dans le nord-est du Nigeria et en Somalie. Pour ces 4 pays, ce sont en fait plus de 20 millions de personnes, plus de 25 millions même de personnes qui sont en insécurité alimentaire sévère, c'est-à-dire que non seulement ils ne peuvent plus subvenir à leurs besoins alimentaires, qu'ils coupent sur la quantité, la qualité de leur repas, mais qu'en plus ils sont obligés de vendre leurs biens pour y subvenir. Donc ils sont vraiment dans une situation de destitution extrême, et c'est bien pour cela que nous sommes extrêmement préoccupés. Comme vous l'avez rappelé, les situations de famine, quand elles sont déclarées, bien souvent il est déjà trop tard, puisque vous avez rappelé la famine en Somalie, qui avait fait en 2011 plus de 250 000 victimes. Il faut se souvenir qu'à ce moment-là, quand on avait déclaré la famine, près de la moitié de ces 250 000 personnes étaient déjà mortes. Donc il faut vraiment, ce qu'on essaye de faire, c'est attirer l'attention sur le risque de famine dans ces pays pour que des actions soient prises le plus vite possible. C'est bien là tout l'enjeu de notre réponse.
Et c'est une des problématiques peut-être, d'ailleurs Dominique Burgeon, c'est une des problématiques de ce tempo et du calendrier qui est celui du moment auquel on déclare, alors soit le risque de famine, sauf que la famine est avérée, Clara Jamar, comme disait Dominique Burgeon, finalement, quand on déclare qu'il y a une famine, c'est que c'est déjà trop tard. Ça veut dire qu'on est déjà passé à un stade où il va être compliqué peut-être d'agir sur le terrain.
Alors malheureusement, c'est bien souvent le cas. Au moment où on déclare des famines, il est déjà trop tard. Il faut comprendre que dans ce genre de situation, tout se dégrade extrêmement rapidement et que l'aggravation de la situation se fait de manière exponentielle et non pas de manière linéaire. Donc à partir du moment où on arrive au point de basculement, en général, il est déjà beaucoup trop tard. Et la situation se dégrade extrêmement rapidement. Néanmoins, au Yémen et en Somalie aujourd'hui, on peut encore éviter le pire si on arrive à mobiliser les ressources nécessaires pour apporter l'aide d'urgence humanitaire. Et donc, on parle aujourd'hui de besoins estimés à 4,4 milliards de dollars qu'il faudrait débourser avant la fin mars pour pouvoir éviter le pire.
Et j'évoquais en introduction à cette émission, Georges Courrat, le fait, moi qui m'a surpris en regardant la carte, que les quatre pays qui sont concernés sont des pays qui ne sont pas limitrophes. Est-ce que ça veut dire que ce sont quatre crises qui sont différentes? Et si oui, comment est-ce qu'on peut expliquer leur simultanéité?
Elles sont certainement différentes. Les systèmes alimentaires des quatre pays sont différents. Par contre, la zone géographique est quand même assez similaire, c'est le Sahel. C'est-à-dire une zone dans laquelle l'incertitude climatique est forte, dans laquelle la démographie est importante et dans laquelle on trouve des conflits armés depuis pas mal d'années. Je crois que ça, c'est les éléments clés. Ce qu'il faut dire par système alimentaire, c'est-à-dire que avant même ces crises-là, et la FAO fait le travail aussi, le SMIAR identifie pendant longtemps des zones en sécurité alimentaire qui sont bien plus importantes en Afrique que ces trois pays africains plus le Yémen, sont plus importantes. Mais ça ne débouche pas nécessairement sur des famines, c'est-à-dire des crises de niveau 5, hein, comme on dit dans le jargon. Et c'est parce qu'aussi des systèmes qui corrigent, qui régulent les échanges, qui améliorent la production agricole, qui donnent aux paysans la capacité aussi de cultiver, qui gèrent le foncier. Et dans les rapports agriculteurs-éleveurs, parce que dans toutes ces zones-là aussi, il y a ces rapports agriculteurs-éleveurs qui sont difficiles, et les éleveurs subissent en général des difficultés dans leurs échanges. Tout ça, c'est un système alimentaire qui est vulnérable. Il est vulnérable dès qu'il y a quelque chose qui se passe, soit au niveau climatique, soit au niveau agronomique, soit au niveau politique.
Donc une forme de fragilité structurelle, voilà, qui, quand il y a des crises, peut tourner à ce genre justement de problème. Dominique Burgeon, vous souhaitiez réagir ?
Oui, alors effectivement, je pense que le dénominateur commun à ces quatre pays, ce sont les situations de conflit. Ce sont des situations de conflit prolongées, donc tant au Yémen qu'au Soudan du Sud, qu'au Nigeria et qu'en Somalie. En Somalie, on a une situation d'urgence prolongée, de conflit prolongé dans le pays, sur lequel est maintenant venue se greffer une situation climatique extrême, puisqu'on a une situation de sécheresse très importante qui est venue, je dirais, accélérer et précipiter la situation, comme notre collègue l'a dit. Donc je pense que c'est important de se rendre compte que, finalement, on a le dénominateur commun qui est une situation de conflit, donc une situation politique extrême qui finalement nous a conduit là.
Avec peut-être un problème à court terme, Clara Jamar, qui peut être celui que quand on est dans une situation de conflit, qu'il y a des combats, c'est extrêmement compliqué, en tout cas c'est beaucoup plus compliqué d'accéder aux populations qui en ont besoin.
Absolument, c'est extrêmement compliqué. On estime par exemple que dans le nord du Nigeria, il y a déjà environ 400 000 personnes qui vivent dans des zones inaccessibles à l'aide humanitaire et qui connaissent déjà vraisemblablement la famine. Donc l'urgence aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'aide humanitaire puisse arriver à ces populations les plus vulnérables, à ces populations déplacées, qui ont absolument besoin aujourd'hui d'une assistance urgente en termes d'accès à la nourriture, d'accès à l'eau potable, en termes de conditions sanitaires également, pour éviter que ça se propage de manière complètement désordonnée et catastrophique.
Et faire en sorte que cette aide humanitaire puisse être acheminée, quand on est une ONG, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire, dans certains cas, négocier avec les belligérants pour qu'ils laisse passer cette aide humanitaire?
Ça veut dire négocier avec toutes les parties prenantes, sans pour autant que les convois ne soient absolument jamais escortés militairement. Ça, c'est extrêmement important. Ça veut dire aussi un appel à cesser des opérations militaires pour laisser passer les convois d'urgence humanitaire dans les régions où les populations en ont le plus besoin.
Georges Courrat.
Oui, simplement, je voudrais dire qu'il y a des différences quand même entre le Yémen, le Soudan du Sud et le Nigeria. Je voudrais dire que le Nigeria, c'est quand même... Il y a un État, Ils fonctionnent comme ils fonctionnent, mais il y a un État. Il y a une armée importante et elle est la cause aussi de ces problèmes. Ça n'a pas été dit, mais au Nigeria, c'est la répression militaire qui a créé en partie Boko Haram. C'est pas seulement l'islam. C'est aussi les problèmes fonciers hérités de la grande période d'Ousmane et d'Amfodio qui crée l'adhésion à Boko Haram dans certains lieux. Et je voudrais dire aussi qu'au Soudan du Sud, quand on regarde l'irrigation, c'est un pays qui devrait être un des foyers agricoles de l'Afrique. Il y a 11% de terres arables qui sont irriguées, ce qui est très important par rapport au reste de l'Afrique. Mais voilà, je crois qu'il faut dire, et le paradoxe, c'est que très souvent, on dit au Nigeria, par exemple, Banque mondiale a fait un rapport en 99 pour dire que toutes ces zones de savane, on pouvait produire massivement ce qu'on produit au Brésil, au Cerrado brésilien. On voit qu'il y a des paradoxes extraordinaires. Hein. On est à 300 ou 400 kilomètres de Maïdougouri.
Ça veut dire que pour vous, Georges Kouras, ce ne sont pas seulement les conflits qui ont accéléré ces crises, mais ce sont aussi des décisions politiques, d'aménagement, d'infrastructures qui n'ont pas été prises.
Et oui, c'est-à-dire, si vous voulez, dans la mesure où on n'encourage pas l'agriculture familiale dans le Middle Belt nigérian, et qu'on est...
Le Middle Belt, ça veut dire...
C'est la zone centrale de la savane, hein, la Benoué et le Niger, hein, le confluent de la Benoué-Niger. Ce sont des zones qui sont relativement moins peuplées qu'ailleurs, dans lesquelles il y avait des conflits entre les chrétiens et les musulmans, mais dans lesquelles il y avait des disponibilités qui sont ouverte aux investisseurs étrangers, alors qu'il aurait été utile ou intéressant de développer une agriculture familiale diversifiée dans ces zones-là pour alimenter aussi toutes les autres zones.
Dominique Burgeon, sur cette question finalement des défaillances politiques, du manque d'aménagement de certaines zones, j'imagine que c'est une question à laquelle vous êtes sensible à la FAO, puisque vous avez aussi un rôle de, si ce n'est d'aménagement, enfin en tout cas de co-aménagement avec un certain nombre de pays.
Oui, effectivement, la FAO travaille de manière étroite avec les pays pour effectivement appuyer la formulation et la mise en œuvre de politiques agricoles et visant au développement durable de l'agriculture. Effectivement, c'est un des objectifs importants de la FAO puisque effectivement, finalement, c'est la volonté politique des pays qui doit prévaloir et pour laquelle nous sommes effectivement en appui. Mais je voudrais peut-être aussi souligner que même dans cette période aiguë de crise que nous traversons dans ces pays, en fait, ce qu'on se rend compte, c'est même en matière, si vous voulez, d'aide humanitaire, la communauté internationale a tendance à parfois avoir une approche un peu, je dirais, court terme, à dire effectivement dans ces situations, on apporte une aide, une assistance alimentaire à court terme, ce qui est fondamental, et le programme alimentaire mondial fait avec ses partenaires, les ONG partenaires, fait un travail remarquable à cet égard, à apporter une assistance alimentaire, mais on oublie trop souvent que dans ces zones, 80% des populations dépendent de l'agriculture pour leurs moyens d'existence. Et que donc, au moment où on fait un appui en matière d'assistance alimentaire, il est fondamental de continuer avec un appui à ces moyens d'existence et donc d'appuyer l'agriculture même en ces périodes de crise, en permettant aux personnes de rester sur leurs terres, de cultiver leurs terres partout où c'est possible, de maintenir leurs animaux, de maintenir un minimum d'activité agricole pour ne pas finalement venir gonfler les rangs de ceux qui doivent migrer dans des camps à l'intérieur du pays ou encore parfois à travers les frontières et devenir des migrants comme on en voit certains arriver dans nos régions.
Juste d'un mot encore, Dominique Burgeon, les 4,5 milliards de dollars qui sont demandés aujourd'hui par l'ONU, c'est pour répondre justement à une aide d'urgence ou c'est aussi pour investir dans quelque chose de plus durable, disons?
Disons, c'est pour effectivement répondre aux problèmes urgents, donc c'est pour répondre à la crise humanitaire à laquelle nous sommes confrontés, mais avec, comme je l'ai dit, en ce qui concerne le secteur de la sécurité alimentaire, avec tant une assistance alimentaire qu'une assistance par rapport aux moyens d'existence qui dépendent de l'agriculture. Donc, comme je l'ai dit, avec la fourniture d'intrants agricoles, l'appui au maintien du bétail et ce genre d'activité vraiment qui appuie les agriculteurs et qui, dans des pays comme la Somalie à l'heure actuelle, sont absolument fondamentales pour justement permettre aux populations de rester chez elles. Parce qu'en fait, on se rend compte que, par exemple, quand on a eu la famine en 2011, il y a beaucoup de gens qui ont migré, qui sont partis des zones rurales vers les zones urbaines. Et encore à l'heure actuelle, on voit dans les camps de déplacés dans les villes et dans les camps de déplacés en Somalie, on voit encore des gens qui ont été déplacés à l'époque de cette famine en 2011. Ce qui montre que une fois que les gens quittent leur terre, quittent leurs moyens d'existence, il est très difficile pour eux d'y retourner. Et donc, on a tout intérêt à essayer de les aider à rester chez elles, quand bien entendu la situation sécuritaire le permet.
Voilà, donc essayer d'avoir des politiques qui permettent de fixer les populations. Encore faut-il aussi peut-être se poser la question de quelles politiques agricoles on développe, peut-être aussi pour être en mesure de mieux résister à certaines crises. Et c'est ce sur quoi vous travaillez à Oxfam, Clara Jamard.
Absolument. Je pense qu'il est extrêmement important de rappeler qu'aujourd'hui, on produit largement assez de nourriture pour nourrir convenablement l'ensemble de l'humanité. Donc ces famines ne sont pas le résultat d'un problème de disponibilité alimentaire. L'alimentation, elle est là, elle est disponible. Il y a aujourd'hui un problème d'accès. Et c'est ce qui explique d'ailleurs ce paradoxe qui est que 70% des personnes qui souffrent aujourd'hui de la faim sont des paysans, sont des producteurs d'aliments. Tout simplement parce que ce sont les personnes les plus pauvres et les plus vulnérables. Donc la question de la faim, elle est intimement liée à la question de la pauvreté.
Les plus vulnérables, pardonnez-moi juste une petite parenthèse, c'est-à-dire les plus vulnérables par rapport au prix des denrées alimentaires, par rapport au fait que ce sont celles qui sont le plus délaissées peut-être par les autorités.
Absolument, par rapport au prix des denrées alimentaires, et les prix alimentaires sont de plus en plus volatiles avec des pics de prix imprévisible, avec des chutes aussi absolument imprévisibles sur les cours internationaux, et puis parce que ce sont les populations qui sont les plus directement impactées par le changement climatique, et qu'aujourd'hui on est dans des situations où il est absolument impossible de savoir, pour les paysans des pays du Sud, de savoir quand semer, de savoir quand les pluies vont arriver, de savoir, il y a des épisodes climatiques extrêmes de plus en plus fréquents, qui font qu'aujourd'hui il y a une imprévisibilité totale sur les périodes culturales. Et puis, ce sont des paysans qui ne sont pas soutenus par les politiques agricoles de leur propre pays, et qui ne sont pas soutenus non plus par l'aide publique au développement en agriculture qui viennent des pays donateurs.
Elle existe, cette aide publique au développement. Elle est mal orientée, ou elle est sur de mauvais programmes ?
Elle est extrêmement mal orientée aujourd'hui. Quand on regarde par exemple une initiative comme celle qui a été lancée au G8 de 2012 à Camp David, qui est la nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition, on observe que les populations paysannes sont non seulement laissées de côté, que c'est une initiative qui permet simplement d'ouvrir les portes des marchés agricoles africains à des grandes entreprises de l'agrobusiness basées dans les pays du Nord, et que ça a un impact négatif sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations concernées. Donc les politiques agricoles ne vont pas dans le bon sens, et l'aide publique au développement en agriculture ne va pas dans le bon sens. Aujourd'hui, ce qu'il faut, on le sait, c'est soutenir les agricultures paysannes, c'est soutenir les pratiques agroécologiques qui sont les seules à même de nourrir les générations actuelles sans remettre en cause le droit à l'alimentation des générations futures.
Est-ce que vous partagez ce constat, Georges Corrade ? Et ensuite, je redonnerai la parole à Dominique Bourgeon pour savoir ce qu'il en pense.
Je pense qu'il faut penser politique agricole, politique alimentaire et politique nutritionnelle. Parce que n'en rester qu'à l'agriculture, je ne veux pas critiquer la FAO, mais bien qu'il y ait une division dans la nutrition, hein, mais je crois qu'il est important. S'agissant de l'Afrique, il y a assez à manger sur la planète, c'est vrai. Mais s'agissant de l'Afrique, il faut savoir qu'il faut des routes pour atteindre les gens. Il y a un accès économique et géographique à l'alimentation. Et ça, c'est important. C'est-à-dire, vous trouvez au fin fond du Mali. Vous n'êtes pas à côté des endroits où il y a du sorgho. Et parfois, dans certains endroits du Mali, vous avez du sorgho en surplus, mais les commerçants maliens n'amènent pas ce sorgho chez vous. Donc il y a ces aspects-là qui ont l'air simplistes, mais qui sont importants. Un deuxième aspect, c'est les stocks. C'est-à-dire qu'on a abandonné, dans les années 80-90, sous l'égide de la Banque mondiale et du FMI, l'habitude de stocker ou d'avoir des greniers, comme ça se faisait à l'époque coloniale. Et donc cela a eu des effets pervers, parce que quand il s'agit d'amener une aide alimentaire qui n'est pas forcément dans les habitudes alimentaires de la population, quand vous voyez du maïs OGM américain distribué en Zambie, et que la Zambie refuse, il y a un problème. Donc, il y a... Nourrir la population avec de l'aide alimentaire extérieure, c'est un problème. Il vaudrait mieux utiliser les surplus qu'il y a forcément dans plein de petits pays, dans des zones des mêmes pays, pour les amener aux endroits où c'est nécessaire.
Et
c'est pas évident.
Et du point de vue de l'autosuffisance, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, alors, puisque Clara Jamard nous disait, voilà, on produit suffisamment de barres alimentaires à l'échelle planétaire pour nourrir la planète, est-ce que on peut dire que l'Afrique aujourd'hui pourrait être autosuffisante, puisque ces crises alimentaires là du moment, elles sont toutes en Afrique. Enfin, le Yémen, c'est pas l'Afrique, mais enfin, c'est,
oui, bien sûr.
Il y est presque.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que on raisonne trop à travers les céréales. Il y a plein de plantes orphelines qui sont nées, qui peuvent être utilisées pour l'alimentation, que ce soit l'éleusine, le teff, les tubercules qui ont rendement élevé, hein, dans le sud du Nigeria, le manioc et l'igname sont très importants pour l'équilibre alimentaire. Donc, il y a un problème de régulation des échanges. C'est très important. C'est aussi important les échanges que la production. Et ensuite, il y a aussi le soutien des femmes. Hein, puisqu'on parle de nutrition, c'est très important. Dans les vulnérables, il y a les enfants, ça, c'est vachement important. Et sur ce plan-là, certains types d'éducation des femmes permet de mieux utiliser les aliments de l'environnement, comme ça a été fait dans l'IRD à certains moments. On a explicité, par exemple, des plantes que les gens ne mangeaient pas. Elles pouvaient être utiles en période difficile.
Dominique Burgeon, est-ce qu'on peut dire que si tout cet ensemble de préoccupations avait été suffisamment prise en compte dans les pays qui sont en crise aujourd'hui, alors non pas, on peut pas dire qu'il y aurait pas de crise, puisque on l'a rappelé, hein, ce sont des pays qui tous connaissent des conflits, mais qu'en tout cas on ne serait pas dans des situations de crise alimentaire aussi avancées qu'elles le sont aujourd'hui.
On serait peut-être pas dans des situations aussi extrêmes effectivement, mais comme vous l'avez dit, il faut bien se rendre compte que là nous sommes quand même dans des situations exceptionnelles. Il y a quand même, et nous l'avons démontré, Monsieur Courard, se référer tout à l'heure à la classification dans le cadre du système de classification des crises alimentaires, ça fait quand même, si je parle de la situation au Sud-Soudan, ça fait quand même depuis la reprise du conflit en décembre 2013 que, à travers ce système de classification, nous montrons une dégradation régulière de la situation alimentaire à travers le pays. Nous montrons qu'il y a effectivement que le conflit et que les problèmes d'accès auxquels la collègue d'Oxfam se référait ont un impact important sur ces populations. Et donc que finalement, il y a une érosion de la capacité des populations à faire face qui est telle qu'à un moment, ils savent plus du tout faire face et qu'on se retrouve alors avec des populations qui sont effectivement soit en situation de famine, soit au bord de la famine. Et je pense que tout l'enjeu, encore une fois, c'est que au cours des dernières années, en fait, on a eu la famine en Somalie, qui est une famine évidemment dramatique, puisqu'elle a, comme vous l'avez dit, tué plus de 260 000 personnes, mais on n'a pas eu d'autres grandes situations de famine. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, on est la communauté humanitaire qui est appelée, je dirais, en situation de dernier recours, a été capable d'éviter ces situations. C'est-à-dire que, par exemple, à l'heure actuelle, grâce au système finalement d'information et d'alerte précoce qu'on a sur la sécurité alimentaire, on est capable de voir que dans le Sud-Soudan, dans un district au centre du Sud-Soudan, on a une situation alimentaire dégradée, très dégradée, avec une situation de famine, ce qui fait qu'on peut se mobiliser à temps et, espérons-le, et éviter finalement une propagation et une catastrophe humanitaire immense avec des centaines de milliers de victimes. On peut éviter ça à l'heure actuelle.
Alors, puisque vous avez été tous les trois, vous avez fait référence tous les trois à cette crise de 2011, pardonnez-moi Dominique Burge, je vous coupe un petit peu parce que comme l'heure avance assez vite, je voulais juste vous faire écouter justement un extrait d'un reportage qui avait été diffusé en septembre 2011 sur France 2 à propos de la crise de la famine qui régnait à ce moment-là en Somalie. Écoutez comment on en parlait, on a l'impression que pas grand-chose quand même n'a changé.
Leurs troupeaux, c'était leur fierté, leur richesse aussi. Il y a quelques mois encore, dans le nord de la Somalie où ils habitaient, Naïma et sa famille avaient pas moins de 500 vaches. Il ne leur en reste qu'une aujourd'hui. Une vache et quatre veaux, tous les autres sont morts. 3 années de suite qu'il n'est pas tombé une seule goutte de pluie dans cette région aride à l'est de l'Afrique.
De toute ma vie, je n'ai jamais connu une sécheresse pareille. Les rivières sont à sec. Il n'y a plus rien à manger ni à boire nulle part, ni pour nous, ni pour les bêtes.
Pour parvenir jusqu'à Mogadiscio, ils ont marché 20 jours sous un soleil de plomb et traversé au péril de leur vie la ligne de front entre les combattants islamistes et les forces gouvernementales.
La guerre, si tu as de la chance, tu peux y échapper. Mais la faim, tu as beau faire tout ce que tu veux, tu n'y échappes pas.
Alors donc extrait d'un reportage diffusé en septembre 2011. Clara Jamar, je vais vous redonner la parole à Dominique Burgeon, je m'adresse à lui. Je rappelle qu'il est à Rome. Clara Jamar, est-ce qu'on peut dire quand même que depuis 2011, il y a un certain nombre de leçons peut-être qui ont été tirées de cette crise pour mieux y répondre? Et en même temps, enfin, quand on regarde et quand on cette actualité, on a plutôt l'impression que pas grand-chose n'a changé. La preuve, là, c'est plus un, mais 4 pays.
Malheureusement, je pense que les leçons n'ont pas été tirées de cette crise de 2011. Et on le voit dans la réponse à cette crise qui se fait tarder. Il y a une grande responsabilité politique et morale de la communauté internationale aujourd'hui qui n'a pas su répondre à temps et qui doit absolument se mobiliser au plus vite. Mais on l'a vu il y a quelques jours à la conférence d'Oslo sur la crise du bassin du lac Tchad. À peine un tiers des besoins financiers estimés par les Nations Unies ont fait l'objet d'un engagement de la part des pays donateurs. Donc on est très en deçà.
Alors que nous disait Dominique Burgeon, il y a quand même des signes qui ont été donnés, enfin qui ont été détectés. Ça veut dire quoi? Tant qu'on n'utilise pas peut-être ce mot qui est un mot extrêmement important, qui est celui de la famine, on a du mal à avoir des réactions à la mesure des enjeux?
On a du mal à avoir des réactions à la mesure des enjeux, on a du mal à avoir des financements à la mesure des enjeux, parce qu'il faut bien comprendre que là, l'urgence, elle est d'apporter du soutien humanitaire à ces populations qui sont en famine ou au bord de la famine, et ça nécessite des financements rapides et urgents.
Dominique Burgeon.
Oui, alors, ce que je voulais dire justement par rapport à ce que la collègue vient de dire, c'est qu'en fait, on a tendance, et par rapport aux leçons, c'est qu'on a tendance à garder les gens au bord de la famine. C'est-à-dire qu'on évite la famine, mais ils restent en situation d'insécurité alimentaire sévère, ils restent très vulnérables, et finalement, on n'améliore pas de façon durable leur situation alimentaire, en travaillant sur leurs moyens d'existence, qui dépendent de l'agriculture. Je pense que c'est bien là tout l'enjeu. C'est-à-dire, apporter une aide alimentaire, oui, de préférence une aide alimentaire qui est achetée dans le pays, parce qu'il y a des programmes, le Programme Alimentaire Mondial travaille sur des programmes d'achat locaux, mais au même moment, travailler sur des programmes qui renforcent les moyens d'existence, qui aident les gens à rester chez eux. Et c'est bien tout ce qu'on fait pour l'instant en Somalie, en diminuant par exemple la taille des troupeaux, de façon à garder une taille critique, en fournissant des produits vétérinaires, en améliorant l'accès à l'eau des troupeaux, en fournissant des aliments pour les troupeaux. C'est vraiment des actions intégrées qui permettent aux gens de faire face eux-mêmes et de ne pas dépendre à long terme de l'aide alimentaire.
Georges Corral.
Je crois qu'il faut dire, il faut que les gens fassent eux-mêmes le travail. C'est-à-dire, si on renvoie à la communauté internationale la solution au problème, il y aura toujours des problèmes. Moi, je crois à la souveraineté alimentaire. Je crois qu'il faut faire bouger les États. Il faut parler de syndicalisme agricole. Parce que s'il y a bien quelque chose qui a fait bouger le coton, c'est bien l'Europa. Et Oxfam a été très impliqué en 2003. Et je crois que dans un pays comme le Nigeria, qui est quand même pas complètement impuissant, dans lequel il y a des puissants, il y a beaucoup de puissants au Nigeria, il y a des choses à faire, non pas au niveau macroéconomique, au niveau des 36 États, au niveau des chefferies, des émirs, hein, parce qu'il faut quand même regarder ce qui se passe. Il y a quelque chose à faire aussi au niveau temporel. On est dans le Sahel. Ça veut dire qu'il y a une longue période de soudure où on mange ce qu'on a récolté l'année d'avant. Et donc là, il y a des aménagements locaux à mettre en place avec l'appui non pas seulement des familles, mais au-delà, c'est-à-dire des autorités traditionnelles, les local government authorities, comme on dit au Nigeria. Dans ce domaine-là, il y a des choses à faire à tous les niveaux. Ce n'est qu'en mobilisant à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau international, au niveau national, au niveau des États fédérés, au niveau des petits comtés, qu'on arrivera à une meilleure prise en charge de ces choses-là. On le sait depuis longtemps, il faut le dire. Moi, je me souviens avoir travaillé avec Edgar Pisani sur les stratégies alimentaires il y a très longtemps. On disait déjà ça. Et effectivement, ce qu'on observe, c'est que on renvoie les solutions aux ONG et tout ça. D'une certaine manière, ça déresponsabilise les gouvernements locaux. Moi, je l'ai bien vu au Burkina. Les ONG ont pris le pouvoir, si je puis dire, à la place de l'État. C'est pas pour dire...
Mais elles ont pris le pouvoir ou c'est le pouvoir qui les a laissé prendre les responsabilités en se disant peut-être qu'on va pas investir trop dans l'alimentation, dans l'agriculture, parce que oui. Au pire, s'il y a une crise, on a les ONG qui nous aideront.
Il y a un problème de ce genre-là. La maturité politique des Africains, la deuxième indépendance, c'est aussi une indépendance alimentaire, il faut le dire clairement. Ils ont fait à plusieurs... Le NEPAD a mis en route des programmes pour qu'on investisse beaucoup plus dans l'agriculture familiale. On a même mis des projets de budget 10 ou 15% des budgets nationaux là-dedans. Donc, il est très important que les pays africains, même dans des situations terribles comme celle-là, prennent en charge de plus en plus vite leur destin. Je crois que c'est un message important.
Alors, on a bien compris, bien vu quelles étaient les causes qui peuvent être d'ordre conjoncturel pour expliquer ces crises, c'est-à-dire les conflits, la nécessité d'investir dans l'agriculture et dans une agriculture qui soit adaptée et qui permette peut-être d'arriver à une forme de souveraineté alimentaire pour chacun des pays. Et puis, il y a aussi notre préoccupation au sein de laquelle on est, et pas seulement les pays qui aujourd'hui traversent ces crises-là, c'est celle du réchauffement climatique. Clara Jamar, est-ce qu'on est en mesure aujourd'hui de mesurer l'impact du réchauffement justement sur l'insécurité alimentaire, disons? Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble avoir été pris en compte lors des différentes négociations sur le climat?
Alors d'abord, il faut rappeler qu'effectivement, au-delà de ces situations de famine, qui sont en fait des situations paroxystiques d'insécurité alimentaire, mais qui elle est chronique et qui touche toujours une personne sur 10 dans le monde, c'est énorme. On ne prend pas assez en compte la nécessité de financer l'adaptation au changement climatique pour les populations les plus vulnérables. Quand on regarde les financements pour la lutte contre le changement climatique français, aujourd'hui, il y a moins de 20% de ces financements qui sont destinés à l'adaptation au changement climatique pour les pays les plus vulnérables. Donc il faut absolument que ces montants augmentent, que l'aide publique augmente de manière drastique pour les pays les moins avancés, qu'elle augmente aussi sous forme de dons, parce que pour l'instant, on fait essentiellement du prêt pour lutter contre les changements climatiques. Et quand on fait du prêt, on sait très bien que ce ne sont pas les populations les plus vulnérables qui en sont les bénéficiaires. Et puis, il faut absolument qu'au niveau international, dans le cadre des négociations climat, cette prise de conscience débouche sur des réalités concrètes en termes d'engagement des États pour lutter contre les conséquences du changement climatique qui se font déjà sentir aujourd'hui.
Voilà, qu'on constate de quelle manière, justement, ces conséquences en termes d'insécurité alimentaire?
Alors, en termes d'insécurité alimentaire, aujourd'hui, c'est un des principaux facteurs de l'insécurité alimentaire dans le monde, et on le voit très bien dans la zone sahélienne dont on parle aujourd'hui. C'est-à-dire que le changement climatique a des impacts sur les pratiques culturales, ça a des impacts sur les prix alimentaires et sur la disponibilité, dans certains cas, des denrées alimentaires dans certaines zones qui sont touchées par des phénomènes météorologiques extrêmes de plus en plus fréquents.
Et ce qui explique peut-être aussi que ce soit ces pays et cette zone-là en particulier, Dominique Burgeon, qui soit davantage touché par ces fortes crises alimentaires, parce que des conflits, il peut y en avoir dans d'autres zones de la planète, mais cette accumulation finalement de handicaps, les pays du Sahel en tout cas sont particulièrement vulnérables.
Tout à fait. Je pense qu'il faut garder à l'esprit qu'en fait, le changement climatique, il se traduit de deux façons. Il y a d'abord les changements lents, l'augmentation de la température globale, l'augmentation du niveau des mers, etc. Mais il se traduit aussi, et c'est ce qui est peut-être le plus visible pour les petits agriculteurs, par finalement une augmentation du nombre d'événements climatiques extrêmes, de grosses sécheresses, d'inondations, etc. Et c'est ça qui impacte très fort finalement la capacité des agriculteurs à produire, quand on sait que, par exemple, nous avons conduit une étude l'an dernier qui montre qu'en fait, en cas de catastrophe naturelle, que ce soit les sécheresses et les inondations, 25% des coûts sont absorbés par le secteur agricole. C'est-à-dire que le secteur agricole paye un tribut énorme dans ce type de catastrophe, et donc il faut que nous agissions pour renforcer la capacité des personnes non seulement à faire face à ces chocs, mais aussi à rebondir, à s'adapter aux nouvelles conditions à travers l'adaptation au changement climatique, mais aussi à travers des politiques qui sont mises en œuvre par les pays pour justement permettre cette mise en œuvre de nouvelles stratégies. Donc c'est bien là tout l'enjeu, et les petits agriculteurs, les 2,5 milliards de petits agriculteurs qui produisent finalement plus de 60% de la production mondiale sont particulièrement affectés. Et si on ne les aide pas à renforcer leur résilience, il sera extrêmement difficile non seulement d'atteindre les objectifs de développement durable qui visent à éliminer la faim d'ici 2030, mais aussi à nourrir 9 milliards de personnes en 2050.
Ces considérations-là, Georges Corat, c'est peut-être ce qui distingue les dernières crises, grosses crises alimentaires, de celles qui sont plus anciennes dans l'histoire, c'est-à-dire il n'y avait peut-être pas cette, en tout cas au moins cette conscience du réchauffement climatique.
Oui, sans doute, sans doute. Mais il y a, depuis 1973, les Sahéliens savent que ça existe. Donc, ce que je voudrais insister, c'est les méthodologies pour répondre à ce changement climatique. Il y a des petits coins en Afrique. Je pense à la reconstitution des sols dégradés. La FAO fait un excellent travail montrant qu'il y avait 400 millions d'hectares qui sont en sol dégradé. Quand on voit ce qu'il y a dans certaines petites zones, on a mis au point le ZAI. C'est une technique qui permet... technique qui permet de reconstituer la fertilité des sols qui ont été dégradés les feux de brousse, par exemple. Tous les aspects techniques sont très importants, parce que quand on fait des projets pour lutter contre le changement climatique, et je vois qu'au Zimbabwe aussi, il y a des tentatives, on expérimente à l'heure actuelle toute une série de manières de faire qu'on ne connaissait pas avant. Ça, c'est très important. Et ensuite, une fois que c'est au point dans un petit coin d'Afrique, il faut que des paysans africains circulent pour connaître un peu les méthodes. Et ça, l'aide internationale, c'est peut-être son travail, c'est de faire connaître ce qui se fait d'intéressant dans certaines situations critiques.
Alors tout ça, évidemment, ça demande une réflexion sur le temps long pour revenir peut-être par l'endroit par lequel nous avons commencé, qui est celui de l'urgence, Clara Jamard. Aujourd'hui, en tout cas, l'urgence, c'est quoi ? L'urgence, c'est de faire des appels aux dons pour qu'il y ait un maximum d'argent qui soit distribué dans ces pays. Manifeste comment l'urgence aujourd'hui ?
C'est de faire des appels aux dons des particuliers envers les organisations qui agissent concrètement sur le terrain pour sauver des vies. C'est faire aussi des appels insistants aux pays donateurs pour qu'ils respectent leurs engagements politiques et moraux et qu'ils débloquent les milliards suffisants pour répondre concrètement à la crise. Et puis c'est aussi faire un appel au gouvernement des pays concernés pour les engager à laisser passer de toute urgence les convois d'aide humanitaire qui vont porter secours aux populations touchées par ces famines.
Et c'est à peu près le même type d'appel que fait aujourd'hui la FAO, que font les Nations Unies, Dominique Burgeon ?
Tout à fait. Je crois que la priorité à l'heure actuelle, c'est d'abord de sauver des vies, parce qu'on parle bien de des dizaines de millions de vies qui sont à risque, mais c'est aussi sauver les moyens d'existence de ces populations. C'est les aider à rester chez elles, et ça, l'agriculture a un rôle énorme à jouer.
Ben écoutez, je vous remercie beaucoup tous les trois de nous avoir éclairés sur cette crise qui est en cours et sur les conditions d'apparition de ce genre de crise alimentaire. Merci beaucoup à tous les trois. Dominique Burgeon, je rappelle, directeur de la division urgence et réhabilitation de la FAO, qui est l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation. Merci à vous, Clara Jamard, responsable de plaidoyer sur la sécurité alimentaire pour Oxfam France. Le lien, évidemment, on le met sur notre site internet, franceculture.fr, à la page du Grain à Moudre. Et merci à Georges Courad, dont je rappelle votre dernier ouvrage, celui de l'an dernier, réédition actualisée de l'Afrique des idées reçues, publié chez Belin. Cette émission, vous pouvez la réécouter sur notre site, la télécharger, la commenter. Vous pouvez également nous faire part de vos remarques sur notre fil Twitter. Un grand merci à toute l'équipe du Grain. Mélanie Chalandon, Fanny Richet, Philippine Lebray, Cyril Baer, Louise Fuseau. Émission réalisée par Anne-Laure Chanel avec à la prise de son Élise Le. Demain, nous poserons la question suivante à partir de 18h20. L'administration peut-elle être déloyale? Que se passe-t-il quand on est haut fonctionnaire et que le pouvoir politique change? Eh bien voilà, nous en discuterons avec nos invités à partir de demain.